Donc, nous allons poursuivre le latin par la messe du professeur Gérard Baudel, un itinéraire linguistique et religieux aux éditions Docenda et Genda Legenda, Tournon Saint-Martin, qui a été réédité récemment, avec un complément sur l'histoire de la civilisation romaine. La consécration. Donc, ici, il y a un récit. Et ce récit s'arrête parce que le prêtre va dire les paroles de la consécration, va dire les paroles de Jésus et il va les dire à sa place, pour lui, comme un instrument. Donc, dans le protestantisme, Luther, ayant une crainte de son péché, ne voulait pas qu'on lutte contre le péché de manière directe, c'est-à-dire jour après jour. Il se disait, je pêche tellement, pêche fortement et crois plus fortement encore que tu seras sauvé et tu seras sauvé. Pêche fortement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ce qui reste de sa théologie. Enfin, c'est de son erreur, de son hérésie. Et ce qui fait que pour lui, tout ce qui était méritoire, tout ce qui était effort de vertu, tout ce qui était sacrifice, allait à l'encontre de la fausse paix qu'il avait trouvée. Cette fausse paix, c'était de considérer que on est sauvé, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, c'est la miséricorde de Dieu. Il suffit de croire que Dieu va nous pardonner, mais on n'a pas à faire des efforts de vertu, à essayer d'arrêter de pécher. Et ce qui fait que les protestants, quand même, ne sont pas tout à fait convaincus dans le fond de cette théorie, et deviennent puritains. C'est-à-dire qu'à la fois ils font des efforts de vertu, et à la fois ils font semblant de considérer que ça ne sert à rien, et que c'est la miséricorde de Dieu, de toute façon, qui couvrira leurs péchés. Et du coup, ils sont dans une schizophrénie, et au bout d'un certain temps, les protestants explosent, ou ils continuent dans le puritanisme, ou ils sont débauchés. Tandis que le catholicisme vous dit, confessez-vous, avouez vos péchés, reconnaissez vos torts, allez à la source du sacrifice qui est rendu présent à chaque messe. Jésus vous pardonne vos péchés parce qu'il prend sur lui vos péchés, qu'il offre sa vie innocente pour réparer vos péchés. Et donc la messe est un vrai sacrifice. C'est le sacrifice du Vendredi Saint qui est rendu présent. Anticipé le Jeudi Saint de manière réelle par le Christ, il a vraiment consacré l'hostie et le vin, le Jeudi Saint. Il a anticipé sa mort, une mort mystique. Et il est mort, corporellement le vendredi. Ce qui fait que toute messe est l'actualisation de ce sacrifice. Et alors, du coup, si vous voulez, il va amenuiser la présence réelle, parce que qui dit présence réelle dit présence de Jésus, le Saint des Saints, l'agneau de Dieu, donc je peux pas manger, recevoir, communier avec le Saint, puisque lui, il avait arrêté sa vie religieuse, son vœu de chasteté, d'obéissance, de pauvreté, il a pris femme, et voilà, donc pour lui, c'était pas possible de donner sa vie, enfin Jésus a donné sa vie. Regardez la polémique qu'il y a sur le mariage, bien évidemment que le mariage est saint, et que Jésus a pris 11 mariés sur 12. Mais Jean n'était pas marié et il ne s'est pas marié. Et Jésus s'est pas marié. Parce que le mariage, c'est un amour temporel qui se continue dans la vie éternelle d'un amour personnel. Quand on a été veuf ou veuve et se marier une deuxième fois, eh bien, dans la vie éternelle, on n'est pas polygame. On aime spécialement cette personne, et spécialement cette personne, comme un père et une mère aiment cet enfant, cet enfant, cet enfant. Dans la vie éternelle, on aime son épouse et sa deuxième épouse, ou son épouse et son deuxième époux, voire son troisième époux, comme on aime son premier enfant, son deuxième enfant, son troisième enfant. Parce que l'amour est le cœur de la nature humaine. Nous sommes des êtres de relation. Nous voulons vivre en paix et Dieu nous rappelle qu'il ne faut pas détester ou haïr même nos ennemis. Et c'est le plus dur et le plus vrai dans la religion catholique. Vous voyez, on parlait de l'islam. Dans l'islam, on doit haïr ses ennemis. Donc, il y a ces deux religions différentes. Hein, il n'y a pas... Et donc, ce qui a été la conséquence du fait que la messe n'était pas le sacrifice, ni le Vendredi Saint rendu présent à nouveau, ben, c'est que Jésus n'est pas là. Parce que de toute façon, il ne voulait pas avoir contact trop direct avec Jésus, puisqu'il était pécheur. Et Calvin, lui, était, voilà, il avait des tentations plus pour ces messieurs que ces dames. Et donc, alors, si je sais pas si c'est admis ou pas chez les réformés, mais et ce qui fait que, si vous voulez, il suit Luther parce que voilà, il se sent tellement pécheur qu'il ne veut pas approcher le Saint des Saints. Donc, pas de messe. Et chez les réformés, les calvinistes, il n'y a même pas. Il y a une fois par mois, et encore, une scène. Et alors, on dit les paroles de la consécration comme on lirait l'Évangile, à toute vitesse. Et après le Concile Vatican II, et après la réforme liturgique de 69, on a dit aux prêtres, vous dites les paroles de la consécration à la même vitesse. Vous ne vous arrêtez pas pour la consécration, pour les paroles consécratoires. Parce que c'est de la magie, c'est de la scolastique moyenâgeuse. On veut essayer de se rapprocher des protestants pour dire non, c'est pas à ce moment-là que le pain perd sa substance. Il reste apparemment du pain et c'est la substance du Christ. Au point que justement, à travers les siècles, bon Dieu a fait des miracles eucharistiques, c'est-à-dire que en brisant l'hostie ou même l'hostie elle-même devient de la chair et du sang, et saigne. Et des miracles eucharistiques, vous en avez au moins 10 à travers les siècles, qui ont été reconnus par l'évêque du lieu, par les souverains pontifes. Mais 10, c'est déjà un trop. Que du pain devienne de la chair humaine. Et donc, et les analyses biologiques, justement, mais sur de la chair, l'hostie devenue chair, nous donne on n'a pas encore fait de test ADN sur des miracles eucharistiques, mais sur le sang oui, et donc je crois que c'est AB comme groupe sanguin, il y a un groupe sanguin, voilà. Alors je crois que c'est le groupe du Saint-Suaire, tout ça, enfin bon. Ensuite vous avez l'aléa scientifique, il faut faire attention, mais voyez-vous, vous avez par exemple une religieuse au Carmel de Meaux qui doutait de la présence réelle depuis un certain temps et qui, à un moment donné, lave le corporal, c'est-à-dire que le tissu sur lequel on va dire la consécration. Et il y avait une hostie qui avait été déposée par le prêtre. Je me souviens plus de l'histoire exacte, mais une hostie avait été mise sur le corporal. Je crois que le prêtre l'avait emporté.
L'hostie était tombée par terre, c'est avec un corporal qu'elle a été
ramassée, et on avait enfermé l'hostie dans le corporal, en attendant de la faire dissoudre dans de l'eau si on ne voulait pas la consommer, parce qu'elle était tombée par terre. Et bon, moi, je consomme l'hostie. Quand une hostie tombe par terre, je prends l'hostie. S'il y a des microbes, il y a des microbes.
Le bon Dieu n'a jamais contaminé.
Voilà. Non, mais il peut y avoir. Par contre, voyez-vous, consommer une hostie qu'un malade rejette, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais il y en a qui l'ont fait.
Le bon Dieu n'a jamais contaminé personne.
Oui, mais si on vomit nous-mêmes, ça va, c'est un cercle vicieux. Vous voyez, vous avez un malade qui vient de communier et qui vomit. Vous prenez l'hostie dans le vomi, vous la communiez, vous vomissez. Dans ces cas-là, voyez-vous, on met l'hostie dans un vase d'eau et elle se dissout dans l'eau. Ouais. Et on avait fait, il y a un miracle eucharistique il y a pas plus de 10 ans, ou pas plus de 20 ans, dans les années 2000. On avait mis une hostie dans un vase d'eau. Le lendemain, l'hostie était toujours pas désintégrée par l'eau et elle saignait. Ouais. Eh bien, donc dans ce corporal, l'hostie avait été prise dans le corporal un certain temps, ensuite purifiée, c'est-à-dire on retire toute parcelle d'hostie et puis on met dans l'eau et l'eau en terre. Et elle la lave, elle la repasse et il y a le rond de l'hostie. Elle se dit, c'est la poussière, tout ça, elle relave et le rond de l'hostie est toujours resté. Elle a mis de la soude, enfin, pour blanchir et tout.
Donc elle a cru.
Ah ben, disons qu'il y avait ce rond d'hostie et le corporal est toujours gardé, hein, au Carmel de Meaux. Et quand on voit en translucide, on voit très bien le rond d'hostie. Alors c'est la raison pour laquelle cette consécration, c'est quand même des paroles qui vous ont été livrées au XIXe siècle, qui étaient dans le secret, l'arcane, depuis au moins le quatrième, jusqu'au quatrième, cinquième siècle, à partir du quatrième, cinquième siècle. Les chrétiens entendaient les paroles de la consécration des apôtres et tout ça, mais à un moment donné, si vous voulez, on n'a plus voulu dire les paroles de la consécration à haute voix, parce que c'est des paroles sacrées. Et, mais les premiers chrétiens assistaient au repas pascal, sacrifice anticipé du vendredi saint, et sacrifice du vendredi saint depuis le vendredi saint. Et donc, les apôtres reproduisaient les paroles du Christ, suivant les souvenirs qu'ils avaient. Vous avez 12 apôtres, et nous avons les paroles romaines, telles que Pierre célébrait la messe. Et à un moment donné, ces paroles sont tombées dans l'arcane, c'est-à-dire le prêtre les disait à voix basse. Et pendant des siècles, les gens n'ont pas connu les paroles de la consécration, sauf s'ils demandaient à un prêtre. Le prêtre leur disait volontiers, hein. Puisque même le Notre Père était dit en secret, à certains moments, parce que c'était une belle prière, on ne voulait pas la livrer aux païens. Et donc vous aviez des Notre Père qui sont dits en secret, même encore maintenant, dans le bréviaire monastique. Vous voyez, je pense qu'avec le bréviaire de Paul VI, tout est dit à haute voix, mais jusqu'en 69, vous aviez le prêtre disait « Pater Noster, et ne nos inducas in tentationem » D'où ça vient? Et des persécutions du 4e, 5e, 6e siècle, et on a gardé. Et en Orient, c'est simple, hein, comment dire. Et donc, et chez les Orientaux, ben, ils mettent des plaques d'icônes qui ferment des portes, l'iconostase, et ils disent les paroles à consécration sur l'autel, mais derrière l'iconostase. Vous voyez la consécration, on est en Occident, mais figurez-vous que beaucoup d'Orientaux ne voient pas la consécration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils entendent les clochettes. Et encore maintenant. Hein. Alors il y a des liturgies orientales où l'iconostase est moins grande, on voit quand même le prêtre dire les paroles de la consécration. Certaines liturgies orientales les ont peut-être à haute voix ou chantées. Voilà. Mais pour notre part, elles sont tombées dans la mystique. Et donc, beaucoup de fidèles ne recevaient les paroles de la consécration qu'au catéchisme ou en sermon. Vous voyez ? Ceci est mon corps livré pour nous. Quand on lisait le Saint Paul, quand on lisait le récit du Jeudi Saint, mais c'est comme ça qu'on avait les paroles de la consécration. Et c'était tout à fait livré, hein. Mais le caractère secret et mystique, c'était... Parce que finalement, c'est quand même Dieu qui meurt. Qui pridie quam pater etur. Ici, qui, c'est le pronom relatif, hein, qui que quoi, qui, en français, qui est le pronom relatif de liaison. On vient de parler de Jésus-Christ, c'est lui. Et celui-ci. Hein. Qui. Pridie, vous reconnaissez dies, le jour. Donc, prédié, c'est le jour d'avant, la veille. Quam pateretur. Alors, je me demande si die, c'est pas... Alors, quam, pourquoi quam? C'est pas prédié qui serait pris pour un féminin. Et quam pateretur. Celui-ci, le jour d'avant où il souffrirait, pateretur, hein, c'est patior, pateris, pati, pasusum, souffrir. Pateretur, c'est du subjonctif. Hein, c'est un subjonctif passif, mais qui a un sens actif, hein, c'est un déponent, mais c'est vraiment souffrir. Hein, patior, pateris, pati, pasusum, c'est une forme passive, c'est très joli que ça soit une forme passive, puisque c'est un verbe qui signifie vraiment la passivité. Vous voyez? Mais c'est un sens, je souffre. Hein, c'est-à-dire, je subis la souffrance. Je suis souffert. Qui prédit comme pateritur, accepit, il prie, hein, accipio, panem, ben c'est facile, panis, troisième déclinaison, complément d'objet direct. Accepit, alors, verbe, sujet, complément. Accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum ad te deum patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis, dicens.
Alors, verbe.
Verbe.
Benedixit.
Voilà, accepit d'abord, ensuite benedixit, fregit, dedicque. Et quoi? Panem. Le complément d'objet direct de tous ces verbes, c'est panem. Sauf dedit. Il donna, quoi qu'il donna, le pain, si, si. Alors, sujet, Jésus-Christ. Et maintenant, complément circonstanciel. Ou alors, complément d'objet indirect, complément d'objet second, c'est discipuli suis. Il donna à ses disciples. Datif, masculin, pluriel. Discipulis suis. Discipulus, discipule, discipulum, discipuli, discipulo, discipulo, discipuli, discipuli, discipulos, discipulorum, discipulis, discipulis. Deuxième déclinaison. In sanctas ac venerabiles manus suas. In plus accusatif, donc une idée de saisie avec ses mains, donc il y a un peu de mouvement, bon, on peut... Sanctas, c'est un beau, un très très beau accusatif pluriel féminin. Venerabiles, oh c'est un magnifique, insoupçonné, insoupçonnable, puisque c'est les trois fonctions grammaticales sont toutes identiques. Venerabiles, venerabiles, venerabiles. Mais là c'est un accusatif pluriel. Manus suas, c'est un bel exemple d'un accusatif pluriel de la quatrième déclinaison qui est quand même extrêmement simplifié. Manus, manus, manum, manus. C'est-à-dire que le génitif est comme le nominatif. Alors bon, manus, manus, manum, manus, manui, manu. Mais au pluriel, manus, 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 manum, manibus, manibus. Ce qui fait que vous avez six formes identiques dans la quatrième déclinaison. Donc c'est vraiment la place des mots dans la phrase qui vous donnera la fonction grammaticale. Et là, c'est « Il prit le pain dans ses mains avec ses mains, hein, dans ses mains, manus suas, accusatif pluriel, féminin. Ses mains saintes et vénérables. Et c'est un peu dommage, dans les prières eucharistiques nouvelles de 69, on a supprimé sainte et vénérable. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez une prière eucharistique dont on a des traces au moins des années 600, 800, ce qui sous-entend, si elles ont été mises par écrit, sur des parchemins, sur des sacramentaires, c'est qu'elles ont au moins 200 ans, 300 ans, et on ne voit pas pourquoi dans les années 300 on aurait inventé de nouvelles paroles. Donc c'est apostolique, enfin de Saint-Pierre en tout cas. Sancta sac venerabilis panusuas est, c'est ce qu'on appelle un ablatif absolu. Un ablatif absolu, c'est, comme son nom l'indique, c'est un complément circonstanciel, un ablatif, mais avec un verbe au participe passé. Vous voyez ? C'est un complément circonstanciel de manière, en quelque sorte, de moyen. Et donc on doit trouver le verbe au participe passé et le sujet qualifié par le participe passé. Elevati socolis in celum. Les yeux ayant été élevés vers le ciel. Mais un ablatif absolu, c'est une proposition un peu séparée, vous voyez ? Puisqu'il y a un verbe, elevatis. Les yeux ayant été élevés. Vous voyez ? Mais en français, on prend une périphrase, hein. Eux-mêmes, on supprime le verbe et on en fait un adjectif. Les yeux levés vers le ciel. Elevatis oculis in celum. Acte deum patrem suum omnipotentem. Ah, pourquoi ils ont mis une virgule ? Donc c'est élevant les yeux vers le ciel, vers toi. Ça veut dire qu'on s'adresse toujours au Père. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que toute la messe, sauf les prières avant la communion, sont adressées à Dieu le Père. C'est vraiment le sacrifice du Fils au Père. Abte Deum Patrem Sum Omnipotentem Ad plus accusatif, idée de mouvement, tout est à l'accusatif. Deum Patrem Sum Omnipotentem. La difficulté du latin, elle est bien là. Vous avez des déclinaisons qui sont mélangées. Vous avez Deum et vous avez Patrem, et tous les deux sont accusatifs. Voilà. Mais quand vous avez compris ça, vous oubliez ces différences, d'autant plus que justement, dans l'accusatif singulier comme dans l'accusatif pluriel, il y a des points communs entre déclinaisons. C'est le M ici. Hein? Deum, Patrem, Suum, Omnipotentem. M. Et Sanctas, Venerabiles, Manus, Suas. S. Hein? Tibi gratias agens, ça c'est quelque chose que le français n'aime pas, c'est un participe présent. Rendant, te rendant grâce. Hein, c'est une forme verbale, hein, dont je vous ai déjà parlé. On agit sur les grâces. Gratias c'est l'accusatif, féminin pluriel. Agissant sur les grâces pour toi. Tibi, hein. À toi, datif. Benedixit, il bénit. Frégit, il fractionna. Alors vous remarquerez que le prêtre ne le fait pas tout de suite, hein, la fraction. Et il donne à ses disciples, disant, accipit, et manducate, ex hoc omnes. Recevez et mangez de ceci. Ablatif, ex plus ablatif, tous, nominatif, hein, on pourrait, c'est plus un nominatif, c'est apposé au sujet, c'est plus un nominatif qu'un vocatif. Hein.
J'ai une question, agens, c'est du nominatif.
Deux, c'est
Tibi gratias agens.
Agens, c'est un participe présent au nominatif. Agens, on le décline comme la troisième déclinaison. Agens, agens, agentem, agentis, agenti, agente. Agentes, 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 agentium, agentibus, agentibus. Donc ici, tibi gracias agens, c'est un participe présent au nominatif masculin singulier du sujet accepit. D'ailleurs, j'aurais dû vous faire remarquer que accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, en latin, on utilise toujours le pronom possessif réfléchi si le sujet est le possesseur. En latin, on utilise toujours le pronom possessif réfléchi, c'est ce, ça, son, ce, son, ça, c'est. On utilise toujours le possessif réfléchi si le sujet est le possesseur. Si dans, en français, on va dire Pierre a frappé Paul et lui a pris son livre. Tout le monde comprend que le livre est le livre de Paul. En latin, on ne le comprend pas. On considère que le pronom possessif ou l'adjectif possessif réfléchi renvoie au sujet. Donc, on dira « Pierre frappa Paul et prit le livre de lui ». Sous-entendu, de Paul. Eius librum, le livre de lui. Mais quand on a manus suas en latin, on est certain qu'il n'a pas fait porter le pain par ses apôtres, par exemple. C'est lui qui l'a pris lui-même, dans ses mains. Pronom possessif réfléchi. Le sujet est le possesseur. Accipite et manducate ex hoc omnes. Et là, ce sont les paroles saintes. Hein. Hoc, ici, c'est du neutre. Est, le verbe être. Enim, car. Corpus, c'est du neutre. Mais c'est attribut du sujet, d'un sujet, d'un verbe d'état, le verbe être. Nominatif. Meum, nominatif, mais neutre. Corpus a un us, mais c'est du neutre de la troisième déclinaison. Corpus, corpus, corpus est neutre. Les trois premières fonctions grammaticales sont identiques. Corpus, 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 corporis, corpori, corpore. Corpora, 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 corporum, corporibus, corporibus. Donc ici, c'est du nominatif neutre singulier. Corpus. Et meum, c'est le nominatif neutre singulier. Pronom possessif. Et hoc, ici, c'est le neutre nominatif de is, hein, ceci, H-I-S. Ceci est donc mon corps. Ceci est mon corps. Quand le latin met enim, on ne le traduit pas forcément. Et alors, dans la consécration de la réforme liturgique, finalement, c'est plus proche du sacrifice. Dans le missel typique, c'est-à-dire original, le modèle latin de Paul VI, c'est « Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur ». Et « tradetur », ça veut dire donner, livrer. Vous voyez ? Donc c'est très dur. Le mot « tradetur », c'est livré à la mort. Hein. Donc finalement, en changeant les paroles de la en complétant les paroles de la consécration, ils ont fini par sauver l'intention, parce que avoir supprimé les bénédictions, les génuflexions, les signes extérieurs, on finissait par penser que c'était une scène protestante. Et bien, les paroles de la consécration ne sont pas douteuses. Ceci est mon corps livré pour vous, traduit en français, hein, et livré de même. Donc ça veut dire qu'il va mourir. Vous pensez que les apôtres étaient rigolards et joyeux quand ils ont entendu ça? C'était déjà froid. Et ils étaient là, c'était le repas pascal, ils étaient heureux d'être avec Jésus. Ils avaient fermé les portes parce qu'ils pensaient qu'ils allaient arrêter qu'ils allaient tous mourir. N'oubliez pas qu'ils viennent de Béthanie pour la Pâque. Il a dit on va à Jérusalem, on va à Béthanie. Béthanie, c'est un jet de pierre de Jérusalem. Vous avez Philippe ou Thomas qui dit allons et mourons avec lui. Parce que on se rapproche de ceux qui voulaient l'arrêter et le tuer. Et là, ils sont dans Jérusalem. Les apôtres sont terrorisés. À tout moment, ils peuvent être arrêtés. Donc l'atmosphère n'était pas la guitare. Hein. Si je veux vous rassurer. Ok, senin corpus meum. Et là, vous avez consécration de l'hostie. Donc déjà, Jésus est présent. Hein. C'est pour ça qu'on fait la génuflexion. Hein. Mais il n'y a pas encore le sacrifice, figurez-vous. Mais Jésus est présent. Le prêtre meurt à ce moment-là. Vous devez adorer l'hostie. Jésus est là. C'est son corps. Impressionnant. Mais vous aurez assisté à la messe seulement après le signe du sang. Parce que alors sera signifiée la séparation sacramentelle du corps et du sang, ce qui signifie la mort. C'est pour ça que Jésus a pris du pain et du vin, pour signifier que son sang allait sortir de son corps. Et les apôtres ne sont pas tout à fait idiots, et ils comprennent très bien que c'est le signe de la mort. Simile modo. Ah, vous avez un bel ablatif. Modus. Alors, modus, c'est masculin, modus, maudit, hein, le mode, hein, la manière. Et simili, c'est un i. Comme c'est pas une personne, c'est un ablatif en i. Simili, simili, similem. Simili, simili, simili. Ah, assimilé? Non. Similé, c'est pour les personnes. Similes, similes, similes. Similium, similibus, similibus. Simili, ici, c'est pas un datif. Modo, ici, c'est un ablatif. Modus, si je me trompe pas, hein. Modus, modé, ça doit être rare d'interpeller un mode. Modus, modé, modum, maudit, modo, modo. Maudit, maudit, modos, modorum, modis, modis. Simili modo. De la même manière. Postquam scenatum est. Ah! Jésus a consacré la coupe de bénédiction de la fin du repas. Postquam, après que il eut mangé, il eut dîné. La scène ici, cenatum, hein, le verbe, ceno, cena, cenare, c'est manger le repas. Cena, cene, c'est le repas. Et la scène, c'est du latinisme. C'est un, si vous voulez, on prend le mot latin sans le traduire, hein, en disant la scène. Parce qu'en latin, c'est cena. Repas du soir, hein, je crois. Postquam cenatum est. Après qu'il eut mangé, accipiens, donc nominatif, participe présent nominatif, masculin singulier, et unc, et ici, c'est l'accusatif de hoc. Sauf qu'ici, calicem, c'est pas du neutre, hein, c'est du masculin, je crois. Et ce calice est accipiens unc calicem. Ils ont pas mis accipiens que. Ils ont mis accipiens Et, mais c'est curieux de l'avoir là. Mais c'est du latin. Normalement, ça serait et accipiens. Hein? Enfin, en français. Accipiens et unc preclarum. Preclarum, c'est au-dessus de la lumière, devant la lumière. Hein? Donc, magnifique calice. Alors, est-ce que c'était une coupe en bois? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'utilisait une fois par an. C'était la coupe de bénédiction de la Pâque. Je vous assurais que c'était un beau verre dans les familles juives. Et vous savez que on l'a, le calice, le Graal.
Il est à Valence.
Il est à Valence, en Espagne. Et il est en agate, une pierre semi-précieuse rouge creusée. Et alors, on pense que le... je ne sais pas si ce n'est pas cassé... Oui, 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 mais non, le pied n'est pas d'origine.
Non.
Il y a le haut. Le pied a dû se casser. Vous êtes sûr qu'il n'est pas enserré? Il y a la coupe en agate rouge. La coupelle, la coupe hein, d'origine. Et on a mis des anses en or pour communier. Le pape Benoît XVI a communié avec ce calice. Alors vous me direz, il n'est pas en métal, il n'est pas en doré. Ah oui, mais c'est le calice originel. Vous voyez? Alors à la limite, on devrait dire, eh ben, tous les calices devraient être en agate rouge.
Mais ça casse l'agate.
Oui. Oui, mais c'est beau, c'est très beau.
Oui, mais ça ne s'est pas cassé.
La coupe n'est pas cassée, mais par contre le pied a dû se casser. Et donc, il y a deux anses en or, et le pied aussi est doré et en or. En or massif. Donc, ce calice splendide, hein, comment ils traduisent ce précieux calice, in sanctas ac venerabiles manus suas, donc, accipiens, hein, c'est le participe présent, item tibi gratias agens, à nouveau item. Tibi gratias agens, c'est la même chose. Benedixit, c'est la même chose, mais il l'a pas brisé. Hein? Notre Seigneur n'était pas russe, hein? Il n'a pas jeté le verre. Voilà. Benedixit, dedique discipulis suis, dicens, disant, accipite et bibite, ex eo. Et là, on utilise is et aïd de ceci. Ex et au, ablatif, hein. Omnes, tous, et là c'est très beau, hein. Ic, et donc ça c'est le nominatif de is, justement c'est ic, pardon, hein. C'est ic, ec, hoc, je me trompais en disant is c'est le pluriel. Ic est enim, ceci est donc, calix, le calice, hein, la coupe, sanguinis mei, magnifique génitif, sanguis, sanguis, sanguinem, sanguinis, sanguini, sanguine, sanguines, 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 sanguinum, sanguinibus, sanguinibus. Vous voyez bien que le radical de la déclinaison se prend au génitif. Sanguis, sanguis ne donne pas sanguinem. On retire le is du génitif à la fin pour avoir sanguine, ce qui donne en français exactement lettre pour lettre sanguin. C'est du pur latin. Le calice sanguinis mei, c'est meus, meus, me meum, mei meo meo. Mei mei meos, meorum, meis meis. Ne mon sang. Vous comprenez pourquoi ils étaient tristes quand ils sont partis vers le jardin et Jean a eu la grâce de mémoire de nous donner toutes les paroles du Christ lorsqu'il marchait vers le jardin des Oliviers. La prière sacerdotale de Saint Jean qui reproduit tout ce que Jésus a dit lorsqu'il est parti de, ils sont partis de Jérusalem pour aller au Jardin des Oliviers, est absolument incroyable. Il révèle sa divinité, son lien avec le Père, d'une manière extraordinaire. Il l'avait déjà révélé à la foule, hein. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il ramasse des pierres pour le lapider. Étant homme, il se dit Dieu. Et donc l'atmosphère de la scène est lourde. Les apôtres s'endorment de tristesse dans le Jardin des Oliviers. Ceci est le calice de mon sang. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous comprenez pourquoi moi je suis tellement heureux quand je célèbre la messe où tout est en silence et tout ça. Et quand je célèbre la messe en français, ben, je peux vous assurer que je ne dis pas à toute vitesse les paroles de la consécration, parce que je me recueille énormément pour l'hostie et pour le calice. Et les gens qui assistent à ma messe en français, ils disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a un deuil dans sa famille, ou je sais pas quoi. Ben. Comment?
Parce qu'il a remarqué, c'est ce que fait l'archevêque.
Ah oui, là.
Vraiment à 23.
Oui, mais ça, c'est...
Il ralentit.